السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کے
Dieu a fait la promesse au Messie premier علیہ السلام que sa jamaat va progresser et tout Ahmadi et même les adversaires des Ahmadi sont en train de voir l'accomplissement de ces prophéties. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand vous visitez un pays quelconque, là-bas vous allez voir des Ahmadis, même s'il n'y en a que quelques-uns. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à ce sujet que Dieu a fait cette promesse à propos de la Jamaat. وَجَاءَ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اس کی وضاحت ابراہیم احمدیہ میں یوں فرمائی ہے
Il a expliqué cela dans son ouvrage Ibrahim Ahmadiyya en ces termes. Il a dit: Dieu déclare que ceux qui vont te suivre, c'est-à-dire ceux qui seront les véritables suivants d'Allah et de son prophète, je leur accorderai le dessus sur leurs adversaires jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire par leurs preuves et leurs arguments, ils auront la suprématie sur leurs adversaires. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à ce sujet, après avoir évoqué cette première partie de la révélation, que Dieu a fait la promesse à propos de sa jamaat. Et il dit que la promesse de Dieu est vraie. L'on est en train de mettre la semence en terre. Il avait prononcé ces paroles en octobre 1902. Il dit que l'on est en train de mettre la semence en terre. Il demande quels sont les désirs de nos adversaires et quel est le décret de Dieu. Ils pourront savoir cela s'ils réfléchissent. C'est-à-dire, si l'on veut connaître le désir de Dieu, ils doivent réfléchir et ils vont comprendre cela immédiatement. Il déclare aussi, s'ils réfléchissent, ils vont comprendre qu'ils sont en train d'échouer dans leur complot. Ensuite, il déclare, s'il n'y avait pas cette animosité, il n'y aurait pas eu de progrès miraculeux, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'aspect miraculeux dans ces progrès, car les miracles brillent davantage avec l'opposition et l'affrontement. Nos ennemis sont en train de faire des efforts pour nous détruire. Ils n'acceptent même pas de répondre à nos salutations. Et en aparté, ils tiennent des propos haineux à notre égard. Aujourd'hui, cette haine a atteint son comble. Au grand jour, l'on est en train de proférer ces injures, et tout cela a outrepassé les limites. Voilà donc l'œuvre de ces adversaires de la communauté Ahmadiyya. Le Messie premier Islam a déclaré que, d'autre part, Allah est en train de faire grandir cette jamaat de façon miraculeuse. Si ce n'est pas un miracle, alors c'est quoi? Est-ce là notre œuvre? Est-ce là l'œuvre de notre jamaat? Non, il n'en est pas ainsi. C'est là l'œuvre de Dieu. Et personne ne peut connaître la profondeur ni le secret de cette œuvre. Il déclare que c'est là l'œuvre de Dieu et ses paroles sont merveilleuses. Ainsi, quotidiennement, nous sommes en train de voir le soutien merveilleux de Dieu. Des gens de bonne nature sont en train d'embrasser la communauté Ahmadiyya. Et quotidiennement, la jamaat est en train de grandir. Dieu est en train de bénir les personnes et les biens de la jamaat. Et cela est en train de faire brûler de jalousie les ennemis de la communauté Ahmadiyya. Quotidiennement, on reçoit des nouvelles du Pakistan que leur animosité, leur haine, leur jalousie les ont rendus aveugles à tel point qu'ils sont en train d'altérer les photos du Messie premier alayhi salam, qu'ils écrivent des insultes dessus et qu'ils écrasent les photos du Messie premier alayhi salam. Il y a un infâme qui a placé la photo du Messie premier alayhi salam sur le seuil de son magasin afin que toute personne qui y pénètre passe dessus. Voilà donc comment agissent ces personnes. Mais il y a aussi parmi les pouvoirs publics des personnes de bonne nature. Allah fait en sorte qu'il y ait de telles personnes. Et il y a un officier qui s'est interposé et qui a enlevé cette photo de là. Mais ses ennemis doivent comprendre que c'est là l'œuvre de Dieu. Allah accorde son soutien à son bien-aimé. Il a un sens de l'honneur pour son bien-aimé. Certainement, puisqu'il a un sens de l'honneur pour son bien-aimé, il va se venger de ces personnes qui commettent des actes aussi infâmes. Certainement, ces personnes ainsi que leurs chefs seront les signes de la colère de Dieu. Et un temps viendra quand non seulement les photos de ces personnes, mais ces personnes elles-mêmes seront piétinées et seront piétinées davantage. Les Ahmadis sont en train de faire preuve de patience et sont en train de prier. Voilà nos enseignements. Ses ennemis peuvent, dans leur orgueil, faire ce bon il leur semble, peuvent user de tout moyen pour blesser nos cœurs. Nous ne prenons pas la loi entre nos mains et jamais nous n'allons prendre la loi entre nos mains. Mais comme je l'ai dit, nous allons faire preuve de patience, nous allons prier et nous allons continuer à agir ainsi, Inch'Allah. Voilà ce qui sied à un Ahmadi. Les Ahmadis doivent faire briller davantage cet éclat, en particulier ceux qui sont au Pakistan. Ils doivent prier avec plus d'ardeur, car c'est la prière qui est notre seule arme. En sus de cela, nous n'avons pas d'autre arme qui pourra être efficace. Certaines personnes disent que l'on doit faire ceci ou cela, mais avant d'agir, l'on doit pousser à leur apogée nos prières. En tout cas, je parle aujourd'hui à propos du progrès de la communauté Ahmadiyya. et comment Allah est en train d'accorder son soutien à la communauté et comment il a apporté une révolution dans la vie de ces personnes qui sont de bonne nature. Quant à ces personnes qui ont le moindre amour pour l'islam, quant à ces personnes qui sont le moindrement intéressées par la foi, en tout cas ces personnes sont attirées vers le Messie promis à l'islam. Dieu est en train de guider ces personnes. Mais même ces gens de ce bas monde, ceux qui ne sont pas intéressés par la religion, parmi lesquels il y a ceux qui ne croient même pas en Dieu, même ces personnes sont contraintes de réfléchir et de dire que cette jamaat est en train de progresser à chaque instant. Ces personnes sont contraintes de dire que vous êtes en train de présenter les enseignements de l'islam et on dirait qu'un jour ces enseignements remporteront la victoire dans le monde. Comme l'a déclaré le Messie promis à l'islam, c'est là l'action de Dieu. C'est là la tâche qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de montrer ces choses extraordinaires. Les membres de la Jamaat n'ont qu'à bouger le doigt quand ils œuvrent pour la cause de Dieu, pour la Jamaat. Et Allah fait fructifier leurs efforts, comme s'il y avait eu des milliers de mains qui avaient agi. Voilà ce qui fait brûler de jalousie l'ennemi. Ils n'ont pas cette jalousie à notre égard. Ils ont cette jalousie en raison de l'œuvre de Dieu. Dieu qui est en train de faire voir de tels résultats. Dieu qui est en train d'accorder son soutien clair et évident. Ainsi, je m'adresse à ses adversaires, je leur dis qu'ils sont en train de s'affronter à Dieu. Mais personne ne pourra s'affronter à Dieu. C'est pour cette raison que vous devez avoir peur. Ayez peur de Dieu, car ceux qui s'affrontent à Dieu disparaissent à tel point qu'on ne voit même plus leur poussière. En raison de cette jalousie, jalousie qu'éprouve nos adversaires, nous sommes en train de voir pleuvoir les faveurs de Dieu. Ces personnes, quant à elles, se disent musulmans, mais ne réfléchissent pas à ce sujet. Ces personnes ne comprennent pas que la Jamaat Ahmadiyya a pour tâche de présenter les enseignements sublimes de l'islam aux autres. Et ces soi-disant ulémas n'éprouvent pas de l'amour pour l'islam. Ces ulémas éprouvent de l'amour uniquement pour leur chair, et ces personnes ne désirent que leurs avantages. Comme je l'ai dit, nos paroles ont maintenant un effet positif sur des non-musulmans. Et ces personnes sont en train d'exprimer cela spontanément lors de nos programmes. Par la grâce de Dieu, quand je visite différents pays, quand je pars en tournée, lorsque je visite les Jamaat, par l'entremise du message du Messie promis à l'Islam, je vois briller à l'éclat de l'islam sur les autres, sur les non-musulmans. Comme vous le savez déjà, j'étais présent pour la Jalsa Salana de la Jamaat de la Hollande et de l'Allemagne. Grâce à ces tournées, j'ai l'occasion de rencontrer les Ahmadis. J'ai l'occasion de leur parler, mais j'ai aussi l'occasion de parler avec des non-musulmans. Et ces rencontres ont un effet positif sur les non-musulmans. Ensuite, il y a ces non-musulmans qui viennent participer dans la Jalsa suite à l'invitation de leurs amis. Les enseignements de la Jamaat et l'organisation de la Jamaat ont des effets positifs sur ces invités. Généralement, par tradition, Après une tournée, j'évoque quelques faits qui concernent le voyage que j'ai accompli. Et je présente quelques faits pour améliorer l'organisation de la Jalsa. Tout d'abord, je vais présenter quelques faits qui concernent les rencontres qu'on a avec des non-musulmans. Ce ne sont là que de petits aperçus des faveurs que Dieu est en train de faire pleuvoir sur nous. J'étais donc présent pour la Jalsa Salana de la Jamaat de la Hollande. Et ce fut après plusieurs années que j'étais présent pour leur Jalsa. Avant de quitter le Royaume-Uni, j'ai reçu une lettre de la part de l'amir de la Jamaat de la Hollande qui me disait que vous venez pour la Jalsa, mais on désire organiser une réception avec des invités hollandais. Tout d'abord, j'avais refusé en disant que ce n'était pas la peine, car je me disais que la Jamaat n'a pas de contact avec les intellectuels, avec les personnes d'autorité. Mais après quelques jours, je me suis dit que cette région où se trouve notre centre et là où on est en train d'organiser la Jalsa, cette région est celle de cet ennemi de l'islam qui matin et soir est en train de vilipender l'islam et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce sera une bonne occasion que de rencontrer des hommes politiques, des intellectuels et des journalistes, si ces personnes étaient présentes pour cette réception. Je me disais que la Jamaat est toute petite et que tout au plus il n'y aura que 14 à 15 personnes qui seraient présentes. Mais par la grâce de Dieu, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes pour cette réception, parmi lesquelles il y avait des députés de la région, il y avait aussi le maire de la ville, il y avait aussi des hommes politiques, il y avait aussi des intellectuels. Et à notre grande surprise, il y avait les journalistes de deux journaux nationaux, ainsi que des journalistes qui appartenaient à de petits journaux. Ainsi, j'ai pu présenter les enseignements sublimes de l'islam, ainsi que l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements du Saint-Coran. Car cette personne qui vilipende l'islam, ce politicien, est en train de critiquer l'islam. Le maire et le député de la région se sont adressés à l'assistance et ont parlé à propos de la tolérance, de la liberté de culte. Comme je l'ai dit, par la suite, j'ai parlé à propos des enseignements de l'islam et l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Par la suite, le député m'a parlé et les enseignements sublimes de l'islam l'avaient fortement impressionné. Comme je l'ai dit, je croyais que la Jamaat de la Hollande n'avait pas de contact avec des hommes politiques de la Hollande. Et à travers les paroles du député, j'ai compris cela. Il m'a dit que vous devez, dans la mesure du possible, établir des contacts avec les hommes politiques de la région et leur présenter les enseignements sublimes de l'islam. Et d'en faire mention dans les journaux et sur des sites web. C'est ainsi que, sans prendre leur nom, il a donné cette indication que si vous aviez agi ainsi, eh bien, les hommes comme Wilder n'auraient pas pu prononcer quelques mots contre l'islam. Et vous auriez présenté les enseignements sublimes de l'islam à la population. Ainsi, voyez comment les paroles du Messie promis l'islam sont en train de s'accomplir, que la tâche de Dieu est sublime. C'est là l'œuvre de Dieu. Cette personne qui est un chrétien, cette personne est en train de nous montrer les moyens comment présenter les enseignements sublimes de l'islam à ses concitoyens. Ce député de caractère noble, qui est un grand politicien, qui a servi pendant longtemps au sein du Parlement, a placé sur son site web sa photo et la mienne et quelques détails concernant la rencontre qu'il avait faite avec moi. Et avant de partir, il m'avait dit que je vais publier tout cela afin de dissiper les malentendus qu'ont nos concitoyens concernant l'islam, et afin aussi d'arrêter cette campagne de haine contre l'islam, des campagnes lancées par certaines personnes qui ne cherchent que leurs avantages, par des ennemis de l'islam et par certains politiciens. Et les journaux ont donné aussi une bonne couverture concernant cette réception et les propos que j'avais prononcés là-bas. Il y avait deux représentants de deux grands journaux, des journaux nationaux, qui étaient présents pour cette réception. Il y a un de ces journalistes qui m'a interviewé pendant quelques minutes. Lorsqu'il avait posé plusieurs questions, je lui ai dit que moi aussi j'ai une question. Ma question est que la région où nous nous trouvons aujourd'hui, où se trouve Nunspeet et où il y a aussi notre centre, cette région est appelée la ceinture de la Bible en Hollande. Il y a des gens ici qui connaissent quelque chose à propos de la foi. Comparé aux autres régions de la Hollande, il y a un plus grand nombre de personnes qui portent à l'église dans cette région. Vous attendez la deuxième venue de Jésus-Christ et vous avez présenté quelques signes. Et selon vous, ce temps est venu. Au contraire, ce temps est passé concernant la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas encore venu. Celui qui est venu, nous l'avons accepté comme le Messie promis. Méditez sur son avènement. En prononçant ces quelques paroles, j'ai vu que son visage était tout rouge, mais il a souri et il n'a rien dit. Après cela, je me suis dit que peut-être qu'il ne va pas donner une bonne couverture concernant notre réception, et même s'il publie quelque chose, peut-être qu'il ne va pas présenter toutes les vérités. Mais le lendemain, je fus fort étonné, et les membres de la Jamaat aussi furent fort étonnés de constater que non seulement qu'il avait publié un article à ce sujet, mais sur la première page, il avait placé ma photo. Et à l'intérieur, il avait publié un article sur plus d'une page à propos de cette réception. Et il avait publié des détails concernant la Jalsa, concernant les enseignements de l'islam. C'est un journal national qui est à fort tirage. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui le lisent. Ainsi, grâce à ce journal, on a pu transmettre les enseignements sublimes de l'islam aux gens de ce pays. Il y a aussi un autre journal national qui a couvert cet événement. Et il y a aussi des journaux locaux qui ont publié des articles à ce sujet. Je vais présenter quelques parties de ces articles. Dans le premier journal national, dont le titre est Dagblad, on a publié en gros titre « Le calife porteur de paix ». Après cela, en me citant, ils ont écrit que la Jamaat Ahmadiyya pense que Hadrat Isa est décédé et qu'il ne retournera pas, et que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad est le deuxième Isa, celui qui devait venir. Ils ont présenté beaucoup de détails à ce sujet, mais moi je vais présenter quelques phrases. Ensuite, il est écrit que la Jamaat Ahmadiyya est en train de se répandre dans le monde grâce à ses efforts. Jamais les Ahmadis, dans leurs déclarations, prononcent des paroles virulentes. La Jamaat est en train de s'établir dans les pays occidentaux, non seulement à travers des missionnaires, mais par ceux qui sont venus de leur pays. Et ils ont évoqué aussi les Ahmadis qui sont venus du Pakistan. Ensuite, on a écrit qu'il y a une relation très proche entre les membres de la Jamaat et la Jamaat elle-même. Ensuite, et on a publié beaucoup de détails concernant la Jalsa. Et en me citant dans l'article, ils ont dit que j'ai déclaré que le calife a remercié ceux qui étaient présents. Il a déclaré qu'en dépit du fait qu'en Hollande, il y a un groupe qui est en train de vilipender l'islam et qui est en train de faire des propagandes contre l'islam, mais vous êtes venu ici et vous avez décidé d'apprendre quelque chose à propos de l'islam. La chose essentielle, c'est le respect et d'établir la paix. Ensuite, disent que le calife a déclaré que je dis en toute certitude que jamais nous allons nous venger. Certes, il y a des groupes musulmans qui ont ces pensées extrémistes. Le calife sait très bien cela. Et les actions de ces musulmans sont condamnables. Et l'action de ces musulmans va à l'encontre de la pratique du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est écrit que le calife a dit que il a peur qu'il n'y ait plus de respect les uns à l'égard des autres, surtout s'il y a de telles personnes qui viennent au pouvoir, des personnes qui ne respectent pas les autres, des personnes qui vont créer des difficultés. Voilà donc quelques extraits de ce journal. Il y a un autre journal national qui a publié en gros titre que le calife est venu et il a condamné l'extrémisme. En me citant et en écrivant en gros titre, ils ont écrit « Ne condamnez pas le saint prophète Mohammed pour ses actes de terrorisme et pour cet extrémisme ». Ensuite, ils ont écrit que selon les croyances de la Jamaat Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad est le Messie promis et ses suivants le considèrent comme le deuxième avènement de Jésus-Christ. Les Ahmadis disent que Mirza Ghulam Ahmad possède les qualités de Hadrat Isa. Ainsi, on a pu transmettre le message de l'islam et le but de l'avènement du Messie premier à l'islam à ces personnes. Et cela a été présenté ouvertement à une grande échelle. C'était des informations publiées en détail. Voyez donc l'œuvre de Dieu. D'une part, il y a M. Wilder, qui est en train de faire des tournées dans le monde pour faire la publicité de son livre, dans lequel il a vilipendé l'islam et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et lui-même, il est empli de haine à l'égard de l'islam. Mais dans son pays, et non seulement dans son pays, mais dans la région où il est député, par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya, on est en train de présenter le message de l'islam et le message du saint prophète, un message qui prône la paix. Et ainsi, on est en train de dissiper leurs malentendus à ce sujet. Selon les informations que j'ai reçues, il n'a pas reçu grande approbation concernant son livre. Mais dans son pays, grâce à ces journaux et grâce au site web des députés, on a pu transmettre le message de l'islam, le message sublime de l'islam, à des centaines de milliers de personnes. Et même la Jamaat de la Hollande ne s'attendait pas à une si grande couverture. C'est là la tâche de Dieu et par reconnaissance, il nous incombe maintenant, il incombe à la Jamaat de la Hollande que de renforcer ses relations, d'élargir ses relations et de dissiper les malentendus que les autres ont à l'égard de l'islam. Et on doit présenter ouvertement aux concitoyens de M. Wilder ses mensonges et sa rancune. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya peut défendre l'islam. Seule la Jamaat Ahmadiyya peut lancer ses assauts en usant de ses arguments. Les invités qui étaient présents pour cette réception ont eu de très bonnes impressions. Notre missionnaire de la Norvège qui était présent là-bas a parlé avec une personne qui lui a dit que nous voulons entendre davantage à propos de l'islam. Votre calife a terminé rapidement son discours. Un vieillard a dit que l'enseignement que vous êtes en train de présenter aujourd'hui, le christianisme a présenté le même enseignement très tardivement. C'est-à-dire, ils ont présenté cet enseignement après 2000 ans. Il voulait dire par cela que les chrétiens, les différents groupes chrétiens, se sont entretués pendant longtemps. Il y a eu des troubles pendant longtemps. Ils se sont affrontés pendant longtemps. et ce n'est que maintenant qu'ils ont pu établir la paix. Mais vous, vous avez fait des efforts rapidement pour répandre la paix. C'était là son point de vue à lui. Il ne savait pas que cela n'a pas débuté aujourd'hui, mais que ses enseignements ont été offerts par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, 1400 ans de cela. Et c'est à l'époque qu'on avait jeté les bases de ses enseignements. Ainsi, grâce à cette réception, on a pu dissiper les malentendus de ces personnes à propos de l'islam. Qu'Allah fasse qu'il y ait des résultats positifs à l'avenir, et que ce peuple accepte l'islam, et qu'il se mette sous la bannière du saint prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je l'ai dit, les membres de la Jamaat doivent faire beaucoup d'efforts à ce sujet. Après la Hollande, il y a eu la Jalsa de la Jamaat de l'Allemagne. Vous avez regardé cela sur la MTA. En Allemagne, il y a d'une part les occupations qui concernent la Jalsa. Et ensuite, au cours de chaque tournée, il y a l'ouverture des mosquées où il y a des poses de première pierre de chaque mosquée. Au cours de cette tournée, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée et j'ai fait la pose de la première pierre de 3 nouvelles mosquées. Généralement, après la pose de la première pierre, on bâtit la mosquée au cours d'un délai d'un an. Qu'Allah accorde davantage l'occasion à la Jamaat de l'Allemagne. Au cours de ces réceptions, lors de l'ouverture de ces mosquées ou de la pose de la première pierre, il y a quelque chose de positif. Au cours de chaque réception, il y a des gens de la société qui sont présents, parmi lesquels il y a des intellectuels, le maire adjoint, des officiers ou d'autres personnes qui y sont présentes. Auparavant, cela ne se faisait pas en Allemagne, mais en tout cas ici, lors de l'ouverture de chaque mosquée, on invite ces gens. Ainsi, ils ont compris cela là-bas aussi. Et c'est là quelque chose de très important pour faire connaître la Jamaat Ahmadiyya, pour présenter les enseignements sublimes de l'islam et pour prêcher son message. Notre tâche à nous, c'est de présenter les enseignements sublimes de l'islam au monde et d'inviter le monde vers la vérité. Avec la construction de chaque mosquée, on élargit davantage le champ pour l'établir. Et j'ai tout le temps dit aux membres de la Jamaat que suite à cette renommée, et face au fait que le champ s'est élargi pour l'établir, ils ont davantage de responsabilités. Il est important d'être un modèle des enseignements de l'islam. Puisque la Jamaat s'est fait connaître là-bas, il y a une organisation dans laquelle se trouvent des officiers de l'armée. Cette organisation a mis en place un programme en se basant sur la moralité, sur les choses qui ont trait à la politique. J'étais présent. Là-bas, cette organisation a pour but de définir le rôle que doivent jouer les Allemands. C'est une organisation qui a collecté des informations concernant le monde, concernant la culture, concernant aussi les différentes religions. Et pour cela, ils organisent des conférences, des séminaires. La société civile aussi participe avec eux dans ces programmes. Ainsi, comme je l'ai dit, on a organisé un programme là-bas et j'ai eu l'occasion d'être présent pour ce programme. Généralement, pour ces conférences, ils invitent des personnalités étrangères. Ils invitent des légistes, des gens appartenant à différentes religions, des experts dans différents domaines. Ils avaient aussi invité le leader de l'organisation principale des musulmans, Monsieur Iman Mazik, et il a prononcé un discours là-bas. Ils m'ont invité pour prononcer un discours et moi j'ai parlé à propos de la fidélité à l'égard de sa patrie à la lumière des enseignements de l'islam. Et après cela, il y a eu une session de questions et de réponses. Il y avait le maire, des intellectuels, des prêtres chrétiens, des représentants du judaïsme qui étaient présents, en sus de ses officiers supérieurs de l'armée. Par la grâce de Dieu, cette conférence a eu un effet positif. J'ai pu transmettre à ces personnes les enseignements sublimes de l'islam. Le secrétaire des affaires extérieures de la Jamaat, M. Daoud Majoka, m'a envoyé quelques commentaires. Il est dit qu'une personne a déclaré que je fus fort surpris de voir une personne qui a présenté aussi facilement la solution aux problèmes du monde. Ainsi, voilà les enseignements sublimes de l'islam. Si on présente ces enseignements de l'islam, tout le monde peut comprendre cela. Un autre a déclaré que votre calife nous a expliqué nombre de choses. Le concept de l'islam que vous présentez nous fait comprendre que les musulmans peuvent certainement s'intégrer dans la société. C'est là une question qui est soulevée partout en Europe, à savoir que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer en Occident. C'est-à-dire que les musulmans aiment vivre séparément. Et il a déclaré que c'est un concept erroné que l'on trouve en Europe. Certains ont exprimé leur surprise concernant les enseignements sublimes de l'islam. Ainsi, c'est la tâche des suivants du Messie premier alayhi salam, cet amoureux parfait du saint prophète, que de présenter les enseignements sublimes de l'islam aux autres et de fermer ainsi la bouche de ceux qui critiquent l'islam. La plupart de ceux qui m'ont rencontré m'ont dit et ont dit à aussi ceux qui étaient présents de leur offrir le texte de ce discours. La Jamaat de l'Allemagne va traduire cela en langue allemande et va leur envoyer cela. Ensuite, au cours de la Jalsa de l'Allemagne, il y a un programme permanent, un programme pour lequel on réunit des Allemands ou des non-musulmans ou des non-Ahmadis. Il y avait entre 5 à 600 personnes qui étaient présentes pour ce programme et j'ai eu l'occasion de parler. Encore une fois, j'ai parlé à propos des enseignements de l'islam, à propos de l'avènement du Messie premier à l'islam, concernant la situation du monde et le fait que le monde est en train d'oublier Dieu et le fait que l'on est en train de courir vers la destruction. J'ai parlé à ce sujet et j'ai eu l'occasion de leur dire d'être vigilants à ce sujet. J'ai aussi parlé à propos du rôle que doit jouer chaque personne pour éviter cette destruction. Ce discours a été transmis en direct sur la MTA. Vous avez regardé cela. Comme je l'ai dit, il y avait plus de 500 personnes d'origine allemande, des non-musulmans, des non-ahmadis qui étaient présents. Cette session a eu un effet positif. Ensuite, j'ai rencontré des non-ahmadis qui étaient venus de différents pays et la plus grande délégation était de la Bulgarie. Environ 80 personnes étaient présentes de la Bulgarie, parmi lesquelles il n'y avait que 13 ou 14 ahmadis. La majorité d'entre eux étaient que des non-ahmadis, il y avait quelques chrétiens aussi. En tout cas, la plupart de ces personnes étaient impressionnées par le programme, par la discipline. Tous les ans, il y a un nombre plus important de personnes qui viennent de ces différents pays et de la Bulgarie aussi. Généralement, ces personnes sont fort impressionnées par la Jalsa. Et cette rencontre est un moyen pour ouvrir les cœurs de certains. J'ai parlé avec la délégation de la Bulgarie et il y a un jeune homme qui m'a dit que vous dites que l'on doit ressentir la crainte de Dieu au cœur et que l'on doit agir pour la cause de Dieu et que nous, les Ahmadis, nous sommes en train d'agir en ce sens. Ce jeune homme m'a demandé quelle est la preuve que vous êtes en train de suivre ces conseils. Je lui ai dit qu'entre autres, en Afrique, dans des endroits fort reculés, nous sommes en train de servir les populations sans faire de distinction de religion, de race. Ces informations sont disponibles partout. Ces informations suffisent comme preuve. Nous leur demandons rien à ces personnes. Certes, nous faisons cet effort pour que ces gens puissent rendre culte à Dieu l'unique, qu'ils soient ses véritables adorateurs. Voilà l'effort que nous sommes en train de faire. En Bulgarie, depuis quelques années, on a mis des restrictions sur les activités de la Jamaat. La Jamaat n'est pas enregistrée là-bas. L'État est sous l'influence des mollahs et ils disent que pour mettre fin à des dissensions entre les musulmans et pour qu'il n'y ait plus de troubles en Bulgarie parmi les musulmans, on est en train d'agir ainsi, c'est-à-dire que l'on présente un seul sermon dans toutes les mosquées et que tous les musulmans appartiennent à la même obédience, alors qu'il n'en est pas ainsi. En fait, il y a certains qui reçoivent de l'aide des pays arabes. Et c'est pour cette raison qu'ils ne supportent pas le fait que l'on offre l'occasion aux Ahmadis de prêcher leur message, car ils vont perdre leur gagne-pain. Mais en dépit de cela, tous les ans, il y a des gens qui embrassent l'Ahmadiyya là-bas. Il y a aussi des Ahmadis qui sont venus de Malte, de la Turquie, de l'Espagne, de la Bosnie. Et on a rencontré aussi des non-Ahmadis. Par la grâce de Dieu, la Jalsa a laissé des impressions profondes sur toutes ces personnes. Cette année-ci, j'ai accepté l'allégeance des nouveaux convertis dans la grande salle. Chaque année, il y a des nouveaux convertis qui viennent et qui me prêtent allégeance. Mais ces personnes me prêtent allégeance séparément. Cette année-ci, j'ai dit qu'on va le faire dans la salle principale afin que les autres aussi puissent y participer. Par la grâce de Dieu, l'événement de la Bayra est un événement qui fait grandir dans la foi. Il y avait une personne qui était en contact avec la Jamaat depuis fort longtemps. Cette personne est peut-être de l'Iran. Elle était assise là-bas. Et cette personne n'avait pas l'intention de me prêter allégeance, mais lorsqu'a débuté la Bayra, elle a dit qu'il y a une force invisible qui a poussé sa main. Et j'ai placé ma main et j'ai fait le serment d'allégeance. Il a dit que ce n'était pas des sentiments temporaires. Maintenant, je suis Ahmadi. Et Inch'Allah, je vais respecter le serment d'allégeance. Il y a en moi une nouvelle ardeur. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes puissent progresser dans leur foi. Et que les bénédictions qu'ils ont acquises au cours de la Jalsa soient permanentes. En tout cas, la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne s'est très bien passée. J'ai écouté quelques discours sur la MTA de temps en temps. Le niveau des discours était très bien. Cette Jalsa fut porteuse de bénédictions. Et cette Jalsa a aussi distribué nombre de bénédictions. Les organisateurs se préparent au cours de l'année pour la Jalsa. En dépit du fait que tout se fait sous un seul toit, il y avait quand même des travaux à accomplir. Cette année-ci, il y avait des demandeurs d'asile du Pakistan qui ont travaillé d'arrache-pied. Les organisateurs ont dit que si on avait besoin de 200 personnes, 400 volontaires se présentaient. Qu'Allah fasse qu'après avoir eu leur droit de séjour, ils maintiennent la même ardeur. La situation du Pakistan, le fait qu'ils ont vécu dans cette privation, a eu de l'effet sur eux pendant longtemps. Mais après avoir eu le droit de séjour, la vraie reconnaissance envers Dieu va requérir de leur peur qu'ils ne soient pas négligents concernant l'adoration de Dieu et qu'ils n'oublient pas la Jamaat pour des occupations mondaines et qu'ils soient toujours fidèles envers le califat et qu'ils éprouvent toujours cet amour pour le califat. Chaque année, nous sommes en train de faire de nouvelles expériences à ce sujet, qu'à la fasse que cette relation se renforce davantage. Je dois maintenant présenter quelques faits concernant l'organisation de la Jalsa, car là-bas, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Et ces paroles auront aussi de l'avantage pour toute la Jamaat. Globalement, tout s'est très bien passé au cours de la Jalsa, mais quand il y a de tels événements à grande échelle, il y a aussi des doléances de la part de certains. J'avais fait mention de cela lors de mon premier sermon en Allemagne. Il y a des griefs concernant certains départements. Il y a le département de l'hospitalité qui est très important. Soit qu'il n'y avait pas assez de quoi à manger, soit que le système mis en place par les bénévoles n'était pas effectif. Et les gens ont dû attendre longtemps et certains devaient partir à l'extérieur pour acheter leur repas au lieu de se mettre dans les files. Telle était la situation aussi parmi les femmes. Et certains des bénévoles, hommes et femmes, n'ont pas eu de quoi à manger aussi. Et les femmes ont dû faire leur propre arrangement. Si le premier jour, ou si à un moment donné, on a fait face à une telle situation, c'était la tâche de l'officier de la Jalsa Salana et celle de ses organisateurs que de prendre des mesures effectives, d'en connaître les raisons. Peut-être qu'ils ont fait des efforts à ce sujet, mais on n'a pas vu les résultats escomptés. Et il y a eu les mêmes manquements jusqu'au dernier jour. Les organisateurs doivent comprendre que au Pakistan, par exemple, tous les soirs, l'officier de la Jalsa Salana rencontrait les autres officiers, les chefs de chaque département. Et ainsi, il analysait la tâche accomplie dans chaque département et on examinait s'il y avait des manquements et comment pallier ces manquements. On analysait la situation de la cuisine, combien on avait préparé, s'il y avait des invités qui avaient mangé, s'il y a eu des manquements ou si on a dû préparer plus ou s'il y a eu du repas qui est resté. C'est ainsi qu'on se préparait pour le lendemain. Le département de l'hospitalité, au lieu de remettre à plus tard certains faits, aurait dû informer l'officier de la Jalsa Salana, à savoir qu'aujourd'hui, il y a tel nombre d'invités qui ont mangé ou que tel nombre d'invités ou de bénévoles n'ont pas pu manger, et présenter aussi les raisons. Et il aurait dû parler avec les autres départements. On aurait dû consigner tout cela afin d'apporter des améliorations le lendemain ou pour le prochain repas. S'il y avait ces rencontres et si on planifiait tout cela pour le lendemain, on aurait pu améliorer la situation immédiatement. Il y a aussi le département de l'inspection. L'officier de la Jalsa Salana a des subalternes et ils doivent partir dans chaque département pour voir si tout se passe très bien, de faire une analyse de la situation. Et si on est en train de faire face à des situations d'urgence que l'on doit y remédier. En tout cas, on doit apporter des améliorations dans ce département. Ensuite, dans la salle principale, il y avait des toilettes et des salles de bain qui faisaient défaut, alors qu'il y a d'innombrables toilettes dans ce complexe. Mais pour quelque raison, on n'a pas ouvert ces toilettes. Et certaines vieilles personnes, des hommes et des femmes, ont dû faire face à des difficultés, alors qu'on devait mettre en place des facilités pour les vieux et pour les handicapés. On aurait dû organiser cela. Et dans ces pays, il y a de telles facilités. Et les bénévoles, hommes et femmes, n'auraient pas dû être aussi stricts, surtout dans ces endroits. Votre tâche à vous, c'est de faciliter la vie de tout le monde. Les organisateurs, s'ils n'avaient pas demandé la permission pour ouvrir certaines toilettes, face à cette situation, ils auraient dû demander cette permission pour ouvrir ces toilettes. S'il était une question d'économie, eh bien, même s'il est bien de faire des économies, mais que l'on se souvienne que l'on ne peut pas sacrifier l'hospitalité pour faire des économies. On ne peut pas sacrifier l'hospitalité pour faire des économies. L'hospitalité que l'on doit à ses invités a prééminence sur toute chose. Si l'équipe de l'officier de la Jalsa Salana faisait ses analyses, il n'y aurait pas eu de telles difficultés. Et les gens n'auraient pas dû faire face à de telles difficultés. Ensuite, il y a eu des doléances de la part des invités venus de l'extérieur. Il y avait des nouveaux convertis qui étaient venus d'autres pays d'Europe et personne ne s'est occupé d'eux. Et certains sont retournés en colère. Tout d'abord, les amirs, le missionnaire, les responsables de ces pays auraient dû accompagner ces personnes et auraient dû soutenir ces personnes. S'ils ne les avaient pas accompagnés, ils auraient dû fournir à ces personnes les détails à ce sujet, les informations nécessaires, afin qu'ils puissent rencontrer ces personnes. Ensuite, le département de l'hospitalité, le département de l'accueil et du logement auraient dû établir des contacts avec ces personnes dans le parking. Ainsi, les nouveaux convertis et les invités qui sont venus, on aurait dû faire des arrangements pour leur transport retour, mais il n'y avait pas d'arrangement de transport pour eux. Certains ont dû attendre jusqu'à 11 heures du soir, alors que le département de l'accueil devait fournir le transport à ces personnes. Ainsi, s'il y a quelques personnes qui ont souffert en raison de ces lacunes, eh bien, l'on doit remédier à cette situation, on doit corriger cela à l'avenir. On a déjà entendu les récits concernant le Messie premier, l'Islam, comment il a traité ses invités, comment une fois il y avait des invités de Manipur. Lorsqu'ils sont arrivés dans la cuisine, les responsables leur ont dit de descendre eux-mêmes leurs bagages. Mais ses invités étaient en colère et ils sont partis. Lorsque le Messie premier l'Islam a su cela, il a couru derrière eux et ils étaient très loin, ils étaient tout près de la rivière lorsqu'il les a rencontrés. Ses invités étaient dans une voiture. Le Messie premier l'Islam les a arrêtés et les a fait revenir et lui-même a fait descendre leurs bagages. Voilà l'exemple de l'hospitalité qui est devant nous. Et nous devons tout le temps avoir cela en tête. Et tout Ahmadi, tout département de la Jamaat doit avoir cela en tête. Ainsi, nous allons devoir rehausser le niveau dans ces domaines. Dans mon premier sermon en Allemagne, j'ai attiré leur attention à ce sujet. En passant, s'il avait médité à ce sujet, eh bien, il n'y aurait pas eu ces lacunes où certaines personnes n'auraient pas souffert. C'est en raison de ces lacunes que les tâches louables accomplies par les organisateurs n'ont plus d'effet. Il y a des jalsa dans le monde entier, il y aura aussi la jalsa au Royaume-Uni, Inch'Allah, qu'on appelle la jalsa centrale. Ainsi, ici et dans les autres pays, les organisateurs doivent prendre en considération ces points, doivent avoir en tête ces points. Ils ne doivent pas croire que cela s'est passé là-bas et que cela ne va pas se passer chez nous. Ainsi, on doit combler sa lacune partout, afin que la Jalsa laisse de bonnes impressions partout. À propos des dames en général, dans la salle principale, il y avait du silence. Mais dans la salle où se trouvaient les enfants, selon le rapport, et j'en ai fait mention auparavant, les dames faisaient beaucoup plus de bruit que les enfants. Alors qu'il ne doit pas en être ainsi. À l'avenir, on doit prendre des précautions à ce sujet. En tout cas, comme je l'ai dit, en dépit de tout cela, en général, la Jalsa, c'est très bien passé. Le programme s'est très bien passé. Il y avait de très bons discours. Les gens étaient emplis d'ardeur. Qu'Allah fasse que ces bénédictions soient toujours permanentes. Toute personne présente pour la Jalsa doit être reconnaissante envers les bénévoles. ceux qui ont consacré leur temps, ceux qui ont fait des efforts, qu'Allah récompense toutes ces personnes, et les bénévoles, hommes et femmes, doivent être reconnaissants envers Dieu, car Allah leur a donné l'occasion de servir les invités du Messie promis, alayhi salam. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes et que tout Ahmadi ressente tout le temps cette sympathie à l'égard des autres et que l'on soit toujours prêt à servir les autres.